Allez, Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France, bonjour et bienvenue dans l'émission Médias et Antifascisme sur Radio Libertaire. Donc, notre émission est présente les deuxièmes vendredis du mois à 11h30 hein, sur donc le 89.4 FM en Ile-de-France, sur internet sur radio-libertaire.org et sur anarchiste.info/radio/libertaire. Vous pouvez nous écrire à l'adresse mail mediaset-antifascisme@protonmail.com via nos comptes Facebook et Blue Sky Médias et Antifascisme tiré du 6 Radio Libertaire 89.4 FM en IDF via notre compte X, anciennement Twitter, hein, via l'arrobase média au pluriel tiré du 8 Antifa au singulier, également sur notre compte Instagram à média tiré du 8 et tiré du 8 antifascisme tiré du 8 RL, également sur Mastodon, hein, via le serveur todon.eu, via l'arrobase média-du-8 et-du-8 antifascisme-du-8 RL-du-8 IDF, ou enfin par courrier à l'adresse de la librairie du Monde Libertaire Publico, c'est au 145 rue Amelot, 75011 Paris. Pour nous soutenir financièrement, pour soutenir financièrement la radio, hein, vous avez rendez-vous sur radio-libertaire.org dans la rubrique « Nous soutenir ». Vous pouvez y télécharger le bon de souscription et le retourner complété au 145 rue Amelot, 75011 Paris, ou envoyer un chèque à l'ordre de DMC. Notre programme entend donc, comme vous le savez peut-être désormais, dénoncer l'extrême droitisation ou la droitisation tout court des médias, ainsi que la diffusion d'idées réactionnaires hein, sur les chaînes de télévision, stations de radio, sites internet et journaux papier. Alors, notre épisode d'aujourd'hui comporte deux parties. Alors, les deux parties sont des entretiens que nous avons enregistrés préalablement. La première partie, donc, est, c'est une interview, un entretien réalisé avec avec Mathias Raymond, hein, qui est un maître de conférences en sciences économiques à l'Université de Montpellier, donc qui écrit aussi dans le journal mensuel Le Monde Diplomatique, et qui publie des textes aussi sur le site de l'association Action Critique Média, qu'on appelle aussi Acrimed. Donc cette première partie sera consacrée à une vidéo qui a été réalisée par Blast et par le site internet Blast et par l'association Acrimed. Issue d'une émission qui s'appelle Quatrième Pouvoir et qui parle dans sa dernière vidéo, c'était le 22 juillet dernier, de la propagande de guerre. Le titre exact, c'est « Propagande de guerre, les médias au garde à vous ». Donc voilà, pour cette première partie, il sera question de guerre, effectivement, à Gaza, de guerre, du traitement médiatique des guerres, comme ça a pu être le cas en juin dernier, lors de l'attaque lors de l'attaque de l'Iran par Israël. Il y a aussi la question de la guerre en Ukraine, qui nous intéresse ici. Et en deuxième partie, donc, il y aura un entretien, là aussi, que nous avons préenregistré, réalisé avec l'historien Sadek Selam, hein, que nous avons déjà reçu en mars, en mai et en août dernier. Donc, cette fois-ci, il sera question d'un papier écrit par une journaliste de Libération, Sophie Desdéserts, qui a consacré un dossier au recteur de la mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, à tel point que ce dossier, publié dans le numéro de Libération des 9 et 10 août dernier, a fait la une de ce numéro. Voilà. Tout de suite, nous allons sur Radio Libertaire lancer le premier entretien réalisé donc avec Mathias Raymond du Monde Diplomatique et d'Acrimed, donc sur la propagande de guerre dans les médias à travers donc à travers une vidéo donc réalisée le 22 juillet dernier donc sur la chaîne YouTube plus exactement, ou en tout cas sur le site internet de Blast. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Tout de suite, Mathias Raymond dans Médias et Antifascisme sur Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France. Mathias Raymond, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes Mathias Raymond, vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Montpellier. Alors, vous écrivez aussi dans le journal mensuel Le Monde Diplomatique et vous avez également contribué à l'écriture du livre L'Opinion, ça se travaille, dont la dernière édition est sortie en 2014 aux éditions Agone. Alors, avant toute chose, je précise que donc on consacrera aujourd'hui la deuxième partie de notre émission à l'enquête du quotidien Libération des 9 et 10 août dernier. Hein, donc ça, c'est sur le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Et ce sera tout à l'heure avec l'historien Sadek Selam que nous avons déjà reçu ici en mars, en mai et en mai dernier et le mois dernier, c'est-à-dire au mois d'août. Alors, Mathias Raymond, du coup, vous rédigez depuis 21 ans, si je dis pas de bêtises, depuis le 9 septembre 2004, des articles pour le site internet de l'association Action Critique Média, hein, qu'on appelle aussi du coup Acrimed. Et le 22 juillet dernier, vous présentez le sixième épisode de l'émission Quatrième Pouvoir sur le site internet Blast. Donc, pour le coup, c'est en partenariat avec Acrimed. La vidéo s'intitule « Propagande de guerre, les médias au garde à vous ». Et dans ce cadre-là, vous évoquez notamment l'attaque de l'Iran par Israël. C'était au mois de juin dernier. Vous abordez aussi la guerre, alors toujours menée par Israël, évidemment, à Gaza, et aussi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc, vous reliez ces conflits aux deux guerres contre l'Irak de 1991 et 2003. Vous citez également dans la vidéo les guerres de Yougoslavie, devrait-on dire, les attentats du 11 septembre 2001 à New York, ou encore les bombardements français en Libye en 2011. Alors, sachant aussi que le 14 mars dernier, la journaliste Pauline Perreno écrit un texte sur le site d'Acrimed qui s'intitule, je cite, « Pension ou munitions, la fabrique du consentement à l'effort de guerre ». Et donc effectivement, cet article revient sur la locution du président Emmanuel Macron le 5 mars dernier sur la guerre en Ukraine, suivie, je cite, d'une séquence de matraquage dans beaucoup de médias, hein, là aussi je vous cite, contre le modèle social et pour travailler plus au nom prétendument de l'effort de guerre. Ça, c'est ce que vous dites dans votre vidéo. Et vous montrez par exemple, le professeur, parce qu'il est professeur, à l'université de Bordeaux, Olivier Babot, qui parle sur la station de radio Europe 1 du fameux conclave sur les retraites qui avait été lancé par l'ancien Premier ministre François Bayrou. Ça, c'était le 17 janvier dernier. Et pour finir cette introduction, Olivier Babot qualifie ce conclave qui déjà n'allait qui était une fumisterie, il faut dire les choses, il qualifie ce conclave de caprice, alors que, de son côté, le journal du dimanche, qui fait partie, hein, comme Europe 1, du groupe Bolloré, par rapport à la guerre en Ukraine, au même moment, hein, c'était au mois de mars, le journal du dimanche avait dénoncé sur son site le 8 mars dernier, donc, une volonté de faire peur de la part du président de la République à propos de la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, la présidence avait démenti, s'était opposée à l'utilisation de cette formule le lendemain, dans un communiqué publié sur le réseau social X. Alors, Mathias Raymond, ma première question, c'est comment expliquer cet unanimisme médiatique, qui date pas d'hier bien évidemment, sur les retraites et le modèle social, malgré quand même des divergences d'analyse au sujet de la guerre en Ukraine, parce qu'effectivement, le parti que prend le groupe Bolloré dans ce conflit n'est pas tout à fait le même que celui de beaucoup d'autres médias, comme les autres chaînes d'infos, type LCI, France Info TV ou BFM TV, le parti qui est pris par rapport à la guerre en Ukraine n'est pas tout à fait le même que celui des médias du groupe Bolloré, notamment CNews.
Alors, bon, y a pas mal de choses à dire à tout ça. Peut-être que pour parler de cette forme d'unanimisme que l'on retrouve dans une grande partie des médias sur le thème hein, qui est évoqué ici, les pensions ou les munitions, il va falloir choisir face au risque russe, je pense qu'il faut faire un petit retour en arrière sur finalement la stratégie de la peur. La stratégie de la peur, c'est quelque chose d'assez développé, d'assez courant dans les médias sur différents thèmes, hein, pas forcément sur les thèmes militaires ou les thèmes de guerre, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu pendant les périodes de guerre froide où la stratégie de la peur était mise en avant en France, mais dans plein de pays, hein, c'est pas complètement propre à la France, dans plein de pays, pour justifier des choix stratégiques, des choix budgétaires. Donc cette stratégie de la peur consiste à faire peur et à faire passer dans l'opinion certaines idées comme quoi il serait nécessaire d'augmenter le budget de l'armée, pour faire simple ici. Ensuite, deuxième point, on le voit actuellement avec la question de la dette, il y a aussi une stratégie de la peur qui peut être utilisée à des fins, encore une fois, économiques, afin de réduire les dépenses qui seraient des dépenses sociales. Cette stratégie de la peur, en fait, elle est co-construite. Et c'est là où on rejoint un peu le thème de votre question et de ce qu'on évoque ici. Elle est co-construite à la fois par le champ politique, les élus, le gouvernement, le président de la République et les médias. C'est-à-dire qu'une grande partie des médias vont faire une forme de journalisme politique, dans le sens où ils vont reprendre l'agenda politique, ils vont en faire un agenda médiatique et d'une certaine façon reprendre les inquiétudes que font passer la plupart des dirigeants politiques, enfin, en l'occurrence du Premier ministre ou du Président de la République, comme c'est souvent le cas. Donc, on va dire que les médias les plus mainstream, c'est-à-dire ceux qui collent le plus avec les choix politiques en place, notamment, on va dire, de TF1 à France Inter, en passant par Le Monde et Le Figaro, globalement, hein, grossièrement, vont accompagner ces choix-là. Et puis, à la marge, on va avoir quelques médias qu'on peut ranger dans la case mainstream, dans le sens où ils sont des médias de masse ou des médias largement diffusés, peuvent avoir une lecture un petit peu, disons, contradictoire pour d'autres raisons. Les autres raisons, ça va être, par exemple, vous l'évoquiez, hein, le cas des médias Bolloré, pour faire simple, des médias de CNews, notamment, d'Europe 1, également, qui vont être plutôt sur une autre ligne, parce qu'ils défendent une autre ligne idéologique en réalité. Une autre ligne idéologique qui se retrouve plus sur des thématiques, on va dire, conservatrices que propose par exemple la Russie. Il y a une certaine séduction à l'égard de la Russie de la part de certains des médias. Pas forcément en réalité sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais plus à l'égard de l'autoritarisme de Poutine, à l'égard du rejet d'un courant que grossièrement on qualifie comme woke de la part de Poutine. Donc tout ça, ça peut séduire une partie de la droite et de l'extrême droite qui s'exprime dans les colonnes, enfin dans les colonnes ou sur les plateaux télé de CNews. Donc je pense aussi qu'il y a un choix idéologique de ce côté-là. Et aussi une opposition frontale qui vient de l'extrême droite à Emmanuel Macron et au gouvernement qu'il a mis en place à ces moments-là.
D'accord. Alors, Mathias Raymond, donc on va parler un tout petit peu de Blast. Alors, je rappelle qu'on est donc dans l'émission Médias et Antifascisme, hein, sur Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France. On va parler un tout petit peu de Blast, parce qu'effectivement, donc Acrimed diffuse son émission Quatrième Pouvoir sur le site Blast. Alors, bon, sachant que nous ici dans notre émission, on a déjà réalisé 3 épisodes avec des journalistes de Blast, hein, si vous nous écoutez, vous savez que au mois de février dernier et au mois de juin dernier, nous avons reçu Thierry Vincent, et que le mois dernier, au mois d'août, donc on a reçu Thibaut Rios, donc qui travaille tous les deux, Thibaut Rios et Thierry Vincent, qui travaillent tous les deux pour Blast. Je voudrais remonter Mathias Raymond au 18 mars 2022. Alors ce jour-là, il y a donc le directeur du site Blast, hein, Denis Robert, qui reçoit dans son émission Zoom arrière Un certain Marc Échinger, qui est présenté comme un ancien agent des services secrets français. Dans cette vidéo, Marc Échinger dénonce notamment alors le lobby américain de l'armement qui profiterait de la guerre en Ukraine. Alors, le 26 août 2024, là c'est une autre émission de Blast qui est animée par Thibaut Isoret, qui dénonce la déstabilisation de la France par la Russie. Et le 23 mars dernier, là c'est l'émission Rhinocéros, toujours sur Blast, qui cible notamment une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Et je cite cette chaîne, donc d'après Usul, hein, l'une des deux personnes qui anime l'émission Rhinocéros, d'après Usul, la chaîne Thinkerview, je cite, serait pro-russe. Il emploie bien le conditionnel, serait pro-russe. Et de son côté, Marc Échinger, qui est passé trois fois en fait dans l'émission Zoom arrière, donc animée par le directeur de Blast, Denis Robert, Marc Échinger, lui, eh bien, il est passé de son côté deux fois sur la chaîne Thinkerview, qui, d'après Usul de Blast, serait pro-russe. Bon, donc, sachant que les deux passages de Marc Échinger sur la Thinkerview, c'est le 1er décembre 2020 et le 16 janvier 2025. Donc, Mathias Raymond, si jamais vous pouvez nous donner des précisions là-dessus, pour un média comme Blast, comment concilier la dénonciation de la propagande de guerre à travers, par exemple, votre vidéo du 22 juillet dernier et la dénonciation d'une forme de déstabilisation de la France par la Russie?
Alors, moi, je connais le Média Blast, puisque bon, j'en suis, comme je pense beaucoup de vos auditeurs et vous-même, un usager récurrent et fréquent. Nous connaissons aussi Blast.
Un auditeur, je me permets de vous couper, Mathias Raymond, un auditeur, un usager, on peut dire un usager, mais nous on publie pas sur Blast, c'est ça que je veux dire.
Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'on regarde, on suit ce site, et nous faisons donc une émission qui, on va dire, est trimestrielle quasiment, hein, sur Blast. De ce que j'en connais, de ce que j'en vois, Blast est un média où il y a de nombreux intervenants, qui soient salariés de Blast ou pigistes chez Blast, ou même des intervenants extérieurs, hein, qui ont des médias extérieurs et qui viennent sur Blast, comme le font Acrimed. Donc il y a, à mon sens, une diversité qui s'exprime dans ce média, notamment sur cette question que vous évoquez. En effet, là, vous faites référence à une émission Rhinocéros, où certaines choses ont été dites que, à mon sens, je n'aurais pas dit, et que je n'ai pas dit dans l'émission, et qu'Axinette n'a pas dit dans l'émission Quatrième Pouvoir. Je pense qu'il y a certains éléments sur la lecture du conflit russe et Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, l'invasion de la Russie en Ukraine, qui sont des éléments incomplets parfois, que ce soit à Blast ou dans d'autres médias, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans l'émission que l'on a faite, c'est-à-dire que le grand problème dans les conflits armés, les conflits militaires, c'est qu'il y a une forme de présentisme, c'est-à-dire qu'on présente un événement souvent à partir d'un point qui va être un point déterminant. Le 7 octobre 2023, en effet, c'est clairement un point déterminant dans le conflit qui oppose Israël aux Palestiniens. Mais faire démarrer le conflit entre Israël et Gaza le 7 octobre, c'est avoir une lecture assez restreinte de l'histoire de ce conflit. Et à mon sens, et c'est ce qu'on a dit, hein, clairement dans la vidéo, faire démarrer l'histoire de l'invasion de la Russie en Ukraine est tout à fait condamnable, il n'y a pas de doute là-dessus. Au mois de février 2022, ça me semble être réducteur aussi sur cette affaire. C'est-à-dire qu'il faut au moins remonter à Maïdan, pour qu'il y ait une cohérence, hein, c'est-à-dire 2014, si je ne m'abuse, donc à cette période-là, où il y a eu un renversement, une forme de révolution populaire, mais surtout dans l'Ukraine de l'Ouest. Je pense qu'il faut remonter au moins à cette période-là pour pouvoir lire une partie des événements de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et puis il faut aussi avoir un recul encore plus global, prendre en considération la question de l'OTAN, etc., ce que je ne vais pas faire ici, parce que bon, ça serait très long à développer. Et il me semble, mais moi j'apprécie Uvu et son émission, hein, mais il me semble que dans cette émission que vous citez, il y a des éléments réducteurs qui sont faits, comme de dire que l'émission Thinkerview serait pro-russe. Il me semble que ça peut se discuter, enfin il faut l'argumenter. Je pense que cette émission a des défauts, Thinkerview. On pourrait, nous, en Acrimed, en faire une critique, comme on peut faire une critique d'autres médias. Pour l'instant, on n'a pas pris le temps, parce que ça ne me semble pas une urgence de faire de la critique de Thinkerview, tout à fait, mais il y a des choses, évidemment, à redire. Et ça me semble réducteur de simplement parler de Thinkerview en une phrase et de dire que ce serait pro-russe. En fait, il faudrait développer massivement pour que ce soit étayé. Voilà. Mais de la même façon, ça ne me semble pas prioritaire de faire une critique de Rhinocéros ou de Thinkerview, qui, dans l'ensemble, font quand même l'un comme l'autre, de manière très différente, un assez bon travail qu'on voit peu dans les médias mainstream, que nous critiquons de manière plus acerbe, bien sûr.
Alors, je précise, pour parler de Thinkerview et pour essayer de comprendre ce que Uzul et Lumi, donc, qui animent l'émission Rhinocéros, ont voulu dire. En fait, il s'appuie sur une enquête du site Arrêt sur Image qui date du 19 novembre 2019. Et donc cet article qui a été réalisé par Tony Le Pennec, s'intitule Thinkerview, la chaîne YouTube qui aime les Russes et vice versa. Voilà. Donc après, je précise que on n'a pas eu le temps on n'a pas eu le temps de plancher sur cet article d'Arrêt sur Image. Plus que ça pour l'émission d'aujourd'hui, mais dans tous les cas, effectivement, Uzul et Lumi s'appuient, entre autres, et même essentiellement, si je comprends bien, sur cet article d'Arrêt sur Image pour expliquer une potentielle proximité entre Thinkerview et la Russie. Mais là encore, c'est vrai que au moins l'article d'Arrêt sur Image est honnête par rapport à ça, mais le patron d'Arrêt sur Image lui-même, hein, Daniel Schneiderman, est déjà passé dans Thinkerview, sur la chaîne, oui, sur Thinkerview. Donc bon, mais au moins l'article le reconnaît. Il pourrait très bien masquer ce fait-là, mais au moins dans l'enquête d'Arrêt sur Image, ils reconnaissent que leur propre patron se rend sur cette chaîne qui pourrait être pro-russe, mais sans qu'on en sache plus. Effectivement, il n'y a pas d'affirmation selon laquelle Thinkerview est pro-russe, mais il y a une interrogation qui peut effectivement qui peut être légitime. Pour continuer avec Blast, Mathias Raymond, le 25 juin dernier, là c'est le journaliste Romain Milcarek qui publie sur Blast un article sur le sommet donc de l'organisation du traité Atlantique Nord, hein, l'OTAN, qui s'est tenu à La Haye les 24 et 25 juin dernier. Et donc Romain Milcarek, dans cet article, il aborde surtout l'engagement signé par les pays membres de l'OTAN, dont la France, hein, l'engagement à augmenter leur budget militaire. Donc les pays de l'OTAN sont désormais censés porter, alors en tout cas ceux qui ont signé l'engagement, il me semble qu'il y a un pays qui n'a pas, je crois que l'Espagne n'a pas signé d'ailleurs cet engagement, je sais pas si vous allez pouvoir nous renseigner à ce sujet, mais il me semble que l'Espagne par exemple a refusé de marcher dans cette histoire-là, Mathias Raymond.
Non, là-dessus moi j'ai pas d'informations particulières.
Bon. Oui.
Je ne crois pas. Il me semble aussi avoir entendu que l'Espagne n'avait pas au départ signé, mais j'ai pas d'informations supplémentaires.
Bon. Toujours est-il que les pays qui ont signé, ces pays-là, dont la France, qui ont signé l'engagement à augmenter leur budget militaire, l'ont fait pour porter à 5% de leur produit intérieur brut leur budget militaire, donc d'ici 10 ans. Et dans son enquête, Romain Milcarek, il interroge par exemple Julien Malizard, qui est titulaire de la chaire économie de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Et Romain Milcarec sollicite aussi Elie Tenenbaum, qui est directeur du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales, hein, l'IFRI. Alors cet institut, il faut savoir qu'il est présidé par Thierry de Montbrial. Et alors, bon, Thierry de Montbrial, ça remonte certes à il y a 22 ans, mais 22 ans, très, il y a 22 ans. Voilà, c'était le 11 septembre 2003. Il expliquait dans le quotidien Le Parisien que les États-Unis devaient rester en Irak, sachant que donc les États-Unis avaient envahi ce pays. C'était le 20 mars, à partir du 20 mars 2003. Thierry de Montbrial, donc président de l'Institut français des relations internationales, il a aussi participé à la rédaction du livre « Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale » de 2008. Et ce livre blanc préconise, entre autres, je cite, « une pleine participation de la France aux structures de l'organisation atlantique ». Donc, un petit peu dans la même veine que la question que je vous ai posée avant, Mathias Raymond, comment est-ce qu'on peut juger les positions de Blast au sujet de la guerre, et notamment au sujet de la guerre en Ukraine, au vu des interlocuteurs que Romain Milcarec, j'espère que je prononce bien son nom d'ailleurs, mais au vu des interlocuteurs que Romain Milcarec interroge dans son papier?
Alors, là-dessus, moi j'ai regardé hein, cet article-là de Blast. Il me semble, en fait, que l'article qui est fait, c'est un article assez factuel d'une certaine façon, puisque en effet, les personnes que vous citez sont interviewées sont citées dans l'article, donc ont été interrogées par le journaliste. Il y a aussi d'autres interlocuteurs dans cet article, c'est-à-dire, je vois par exemple Bastien Lachaud, qui est député LFI notamment, qui est interrogé. Il me semble que là, le journaliste essaye de faire un article, on va dire, transversal, où il interroge un peu toutes les parties sur une question d'actualité hein, à ce moment-là, puisqu'il s'agit d'augmenter le budget des pays membres de l'Union européenne sous pression des États-Unis. Et donc, c'est ce qu'il essaye, à mon avis, de faire ressortir dans cet article, c'est le fait que les États-Unis mettent la pression sur les États membres pour que ceux-ci augmentent leur budget de militaire. Les États membres ne peuvent pas, de ce que je comprends hein, de cet article, ne peuvent pas augmenter leur budget militaire par la dette, ne peuvent pas augmenter en augmentant les impôts ou très peu, et ce ne sont pas des leviers, disons, viables, et ne peuvent pas le faire en réduisant, ça se discute, dans l'article c'est discuté en tout cas, en réduisant les autres dépenses. C'est ce que dit par exemple, je crois, Julien Malizard, que vous citiez tout à l'heure, on ne peut pas se servir de l'éducation ou de la santé, politiquement ça serait pas accepté. Et donc, la seule solution qu'il reste, selon les personnes interrogées, ça serait de se tourner donc vers le plan proposé par la Commission européenne. L'article reste, à mon sens, très factuel et présente finalement une situation où d'un côté, il y a la pression des États-Unis, de l'autre, il y a l'absence de levier dans les États, et notamment en France, et il ne reste plus qu'une solution, c'est se tourner vers l'Union, le projet du plan de l'Union européenne. Voilà. Après, au-delà de ça, moi, on peut peut-être en continuant à discuter, mais je vois pas trop ce qu'on peut en faire. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que sur Blast, vous allez avoir à la fois des articles que vous allez vraiment apprécier, des articles coup de poing, des vidéos très bien construites de démontage de certaines émissions, de certains sujets. Et Rhinocéros le fait bien par ailleurs dans de nombreux épisodes. Et puis peut-être des articles qui nous paraîtront plus classique, journalistiquement parlant, voire plus consensuel. Après, dans cet article-là, moi, je ne vois pas non plus un soutien affiché au projet de réarmement de l'Union européenne. Je vois plus un article assez factuel que l'on aurait pu lire dans de nombreux médias par ailleurs. Et j'en profite parce que tout à l'heure j'ai pas réagi à propos de Thinkerview. Henri Mahler, qui est le fondateur d'Acrimed et qui a pris du recul maintenant, mais qui est toujours un adhérent de l'association, avait été aussi interviewé dans Thinkerview. Et j'avais envie de rebondir aussi sur ce point, c'est-à-dire que la grande question que l'on se pose et qu'on peut poser à la fois aux hommes politiques, aux élus, mais aussi aux intellectuels quand ils vont s'exprimer, c'est quelles sont les conditions d'expression dans un média. Est-ce que ça vaut le coup d'aller dans tel média plutôt que dans tel autre? Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur BFM parler pendant 2 minutes et se faire couper la parole, etc. En réalité, Thinkerview, c'est un média qui laisse le temps de parler, qui n'a pas de, on va dire qu'il n'y a pas de contraintes, de pression, parce qu'il y a la publicité, parce qu'il y a une chronique, parce qu'il y a plusieurs intervenants qui vont se couper la parole. Et donc, à mon sens, après, on peut discuter du choix des invités de Thinkerview, mais à mon sens, le modèle de Thinkerview en tant que tel, c'est plutôt un bon modèle quand on veut s'exprimer, quand on veut développer des idées, ce que ne permettent pas de nombreux médias. Et la plupart des médias, des grands médias télé, ne permettent pas ce que permet un média comme Thinkerview, qui en soi peut parfois être critiquable. Moi, je pourrais vous faire des critiques de cette émission très, très construite. Mais c'est important aussi de voir où on s'exprime et quels sont les médias les plus critiquables. On peut aussi chercher la petite bête, voilà, sur Thinkerview, sur Blast, etc. Et après prendre un peu de recul et se dire bon, mais globalement, que nous propose ce média-là? Et est-ce que dans l'ensemble on peut plutôt s'en satisfaire ou pas? Ça, c'est aussi une question qu'on peut avoir à l'esprit, compte tenu aujourd'hui de la pression qu'exercent certains médias sur les lignes éditoriales finalement des autres médias, le pouvoir d'influence qu'ont certains médias sur les autres médias. Ça me semble aussi important.
Tout à fait. Donc, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89.4 FM en Ile-de-France. Alors, Mathias Raymond, effectivement, donc vous soulignez le caractère factuel de l'article de Romain Milcarec pour Blast. Mais alors, quand vous parlez, par exemple, du plan de la Commission européenne qui s'appelle Rearm Europe, donc effectivement, il s'agit d'un plan de réarmement des pays de l'Union européenne pour s'autonomiser par rapport aux États-Unis. Alors bon, le plan en question, d'après le gouvernement français, il est censé chiffrer à 800 milliards d'euros. Alors il y a peut-être là aussi, mine de rien, parce que on peut peut-être trouver quand même une contradiction. Alors là, c'est sur le plan en lui-même. On peut le commenter rapidement. Je suis pas sûr d'ailleurs que ça se soit mentionné dans l'article de Romain Milcarec. Mais enfin bon, ça c'est par exemple la question des droits de douane que Donald Trump inflige aux autres, enfin aux pays qui exportent en direction des États-Unis. C'est-à-dire que là, donc c'était au mois de juin ou juillet, il y avait donc la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a fait en sorte, enfin qui a négocié, si on peut dire ça comme ça, les droits de douane, à savoir que donc Donald Trump, président des États-Unis, voulait infliger 30% de droits de douane aux pays de l'Union européenne, et Ursula von der Leyen a obtenu entre guillemets une ristourne sur ces 30%, d'après l'Union européenne elle-même, donc ces droits de douane ne vont représenter entre guillemets que 14% c'est 15%, 14%, enfin bref, 15%, en tout cas, on réduit de moitié le pourcentage des droits de douane qui sont appliqués sur les produits qui vont donc être importés aux États-Unis en direction de l'Union européenne. Mais du coup, donc il y a déjà cet aspect-là, et de l'autre côté, on sait aussi que une grosse partie de l'armement utilisé par les pays de l'OTAN et de l'Union européenne, en fait, proviennent des États-Unis. Donc, bon, voilà, ça, c'est une question qui se pose dans tous les cas. Mais effectivement, ce plan de réarmement qui est censé chiffrer à 800 milliards d'euros, Romain Milcarec n'explique pas bien, mais en même temps personne ne l'explique, j'ai l'impression, pour l'instant personne n'explique, ni à Blast ni ailleurs, comment vont être mis sur la table ces fameux 800 milliards d'euros. Dans votre vidéo du 22 juillet dernier, vous montrez que dès le mois de mars, au moment où Donald Trump a reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour lui passer un savon, si on peut dire ça comme ça, effectivement à ce moment-là on voyait bien que les États-Unis changeaient quand même un petit peu leur fusil d'épaule par rapport à la guerre en Ukraine, et que donc en Europe, cette question-là n'avait pas été, semble-t-il, prévue, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vu que les États-Unis pouvaient changer d'avis, comme elles l'ont déjà fait beaucoup par le passé, notamment en Afghanistan. Et donc effectivement, il y a cette inconnue-là, d'autant plus que dans votre vidéo, ce que vous montrez surtout, c'est qu'évidemment, ce que les éditocrates français viennent expliquer dans les médias, c'est qu'il faut sabrer, comme vous l'avez dit en début d'émission, dans les dépenses sociales, donc retraite, assurance maladie et ainsi de suite. Mais au final, puisque vous dites que d'après l'article de Romain Milcarec, d'après les interlocuteurs qui l'interrogent comme Julien Malizard ou Elie Tenenbaum, il faut se tourner vers l'Europe, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement se tourner vers l'Europe? Vous l'expliquez peut-être, il me semble que vous l'expliquez dans votre vidéo, mais je trouve qu'à ce sujet-là, mais c'est un problème général. Aujourd'hui, on est encore dans le flou par rapport à ça. Donc, comment est-ce que... Qu'est-ce que ça signifie, Mathias Raymond, se tourner vers l'Europe, au vu de ce qui est écrit dans l'article de Romain Milcarec?
Alors, voilà, moi, je suis pas un spécialiste à la fois de l'économie de guerre et de l'Union européenne. Donc là, pas plus que vous, j'aurai de regard d'expert. Moi, je peux vous donner mon point de vue qui représente celui d'Achimède dans cette affaire sur le traitement médiatique de ces questions et de cette question-là, à savoir la question du choix du financement de la manne budgétaire qui se tourne vers le budget de l'armée plutôt que vers d'autres budgets, et comment les éditorialistes, les médias mettent en musique finalement le discours guerrier de certains dirigeants politiques. Et comme je vous le disais tout à l'heure, moi, le simple... Il y a deux lectures. Il y a la lecture à la fois de stratégie de la peur que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire on fait peur, donc il faut justifier par la peur la hausse des budgets militaires, avec évidemment l'inquiétude de voir la Russie aller plus loin que l'Ukraine, etc. Donc il y a cet argument-là de la peur que les médias relaient plutôt bien. Mais il y a aussi l'autre argument, et qui, à mon avis, est en fait un élément très central dans les médias et dans le traitement médiatique de nombreux sujets, c'est le prisme pro-européen. C'est-à-dire que on a une lecture de la politique en France par les médias mainstream, encore une fois, qui est une lecture tournée vers Bruxelles, et en particulier qui s'aligne finalement sur les décisions politiques, mais aussi les choix politiques et les orientations politiques de nombreux dirigeants ou de nombreux élus, comme par exemple Raphaël Glucksmann, hein, qui lui finalement se satisfait un petit peu de cette affaire, d'être obligé d'aller vers Bruxelles, puisque ça renforce l'idée d'une défense européenne et donc du fédéralisme qui est un projet défendu par de nombreux éditorialistes, chroniqueurs. Bernard Guetta l'était fréquemment sur France Inter et c'est quelque chose que l'on retrouve par ailleurs dans de nombreuses lignes éditoriales de journaux, l'idée qu'il faut plus d'Europe. Et c'est d'ailleurs assez fréquent, c'est quand ça va mal, il faut plus d'Europe pour que ça aille mieux, et quand ça va bien, c'est grâce au fait qu'il y ait plus d'Europe. Donc dans tous les cas, le plus d'Europe, c'est quelque chose de tonner, de scander par une grande partie des médias, une grande partie des journalistes qui finalement s'alignent sur les choix d'Emmanuel Macron, mais avant lui François Hollande, et de la plupart des gouvernements qu'on a eus depuis la création au moins de l'euro. C'est-à-dire on a vraiment cet alignement-là sur les choix européens, les décisions européennes et la volonté de construire une Europe encore plus forte militairement, mais aussi sur plein d'autres sujets. Et là, c'est quelque chose qui est survolé dans l'article, mais je pense que ça mérite approfondissement, notamment nous, dans la critique des médias, on l'a fait à de nombreuses reprises. Hein. On fête cette année les 20 ans du traité constitutionnel européen et de la victoire du non sur le TCE. Le traitement médiatique en faveur d'une certaine Europe et d'une Europe libérale, hein, d'une Europe du marché, a été toujours critiqué par Acrimed notamment.
Tout à fait. Alors, quand vous parlez effectivement de l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, effectivement, ce qu'on peut expliquer, c'est qu'il a écrit un rapport sur l'industrie, sur l'industrie européenne, et en particulier, celle dite de la défense, mais bon, celle de l'armement dans tous les cas. Rapport co-écrit le 30 avril dernier, du coup, avec l'eurodéputé François-Xavier Bellamy. Alors, s'agissant de la guerre en Ukraine, vous, effectivement, vous avez écrit, c'était le 15 septembre 2014, sur le site d'Acrimed, un texte dans lequel, par exemple, vous dénoncez une simplification à outrance des faits. Et effectivement, vous revenez sur les événements de Maïdan, donc vous revenez sur le départ du président de l'époque, hein, Viktor Yanukovych, qui cherchait à se rapprocher de la Russie. Et effectivement, vous pointez quand même un traitement relativement biaisé de la part des médias français qui effectivement ont pu voir dans ce mouvement une espèce de réveil populaire ou quelque chose comme ça, tout en sachant que les médias donnaient apparemment signaient quand même un chèque en blanc en fait à ce mouvement et disqualifiaient d'office Viktor Yanukovych et son régime qui pour leur part cherchaient quand même à se rapprocher de la Russie. Le 25 février dernier, Mathias Raymond, vous publiez également un article intitulé BHL, je cite un BHL Bernard-Henri Lévy, donc nouvelle parade médiatique à l'occasion de la sortie de son dernier livre hein, qui s'appelle Nuit Blanche. Et alors, vous citez notamment un papier du journal Libération qui est daté du 15 février dernier, qui a été rédigé par une journaliste, je ne sais pas si vous la connaissez bien, qui s'appelle Sophie Desdésert. Voilà, journaliste à Libération. Alors, c'est intéressant quand même de noter cela, parce que dans la deuxième partie de notre émission, eh bien, nous allons parler du dossier donc que cette journaliste a consacré dans le numéro de Libération des 9 et 10 août dernier au recteur de la mosquée de Paris. Dans votre vidéo du 22 juillet dernier sur Blast, vous mentionnez là aussi donc Bernard-Henri Lévy et vous montrez ainsi en fait son rôle de promoteur donc évidemment de l'intervention militaire hein, des Nations Unies qui comprenait l'armée française en Libye en 2011. Alors vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France. nous, ce qu'on peut dire aujourd'hui, Mathias Raymond, c'est que, alors, le 3 septembre dernier, nous, on a notre émission, a échangé par téléphone avec Sophie Desdéserts, hein, donc la journaliste de Libération. Ça a duré, 22 minutes. Hein. Ça a duré 22 minutes. Sophie Desdéserts, j'aimerais la présenter très très rapidement. C'est une journaliste qui est passée, par exemple, par le magazine Paris Match. Et alors, elle y travaillait, apparemment, sous les ordres de Bruno Jeudy. Et Bruno Jeudy, c'est aussi quelqu'un qui a sa vision des conflits en cours. Par exemple, le 15 juin dernier, sur la chaîne de télévision BFM TV, Bruno Jeudy expliquait que les eaux territoriales gazaouis, eh bien, en fait, étaient israéliennes. Ça, c'est lui qui le dit. Et il affirme également que les membres de la flottille pour Gaza qui ont été arrêtés dans les eaux internationales par Israël le 9 juin dernier l'avaient cherché. C'est tout à fait ce qu'il dit. Ils l'ont cherché, ils connaissaient les risques et ils y sont allés en connaissance de cause. Et d'ailleurs, j'aimerais juste revenir sur un petit point par rapport à cette flottille. Hein, mais sur cette flottille se trouvait le journaliste de Blast, Yanis Mamdi, à qui on a, dans cette émission, apporté notre modeste soutien. Hein, ça, c'était dans notre épisode du 13 juin dernier avec le collègue de Yanis Mamdi, Thierry Vincent, qui travaille donc aussi à Blast. On a effectivement, on a exprimé, voilà, notre modeste soutien à Yanis Mamdi. Et alors que bon, sur le plateau de BFM TV, ce 15 juin dernier, personne, mais vraiment personne parmi les journalistes qui étaient présents sur le plateau, personne n'a exprimé un quelconque soutien envers son collègue journaliste. Ce qu'il faut savoir pour finir l'explication, c'est qu'Yanis Mamdi, il a passé en tout une semaine en prison en Israël, et pour notre part d'ailleurs, on tient à une nouvelle fois à saluer son courage et son professionnalisme, parce que il a fait son travail et il a été très courageux par rapport à ça. Mathias Raymond, comment est-ce qu'on peut expliquer, alors déjà, le nombre exponentiel là de publi-reportages sur Bernard-Henri Lévy, notamment celui de Sophie Desdéserts là dans Libération, et pourquoi, d'après vous, pourquoi il y a un tel manque de solidarité de la part de Bruno Jeudy et de ses confrères de BFM TV envers Yanis Mamdi le 15 juin dernier?
Alors, ben, ouais, donc deux questions, une qui mériterait presque une émission entière, c'est celle qui concerne Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire le fait que à chaque fois, alors nous, chez nous c'est un leitmotiv, hein, Acrimed, si vous regardez un peu les articles que nous publions, et c'est souvent moi qui m'y colle, hein, je dois dire, à chaque sortie de livre, à chaque film, à chaque fois que Bernard-Henri Lévy fait quelque chose, et d'ailleurs une fois j'avais suggéré que si un jour il proposait un livre de recettes de pâte à crêpes, et qu'il sortait un livre de recettes, eh bien il serait invité de la même façon dans tous les médias, puisque quand il fait une exposition, quand il fait quoi qu'il fasse, il va faire la tournée des médias. Il le fait parce qu'il bénéficie d'un entre-gens considérable et d'un réseau sans commune mesure. Et peut-être pour l'illustrer, ce réseau, je vais remonter à, alors ça nous rajeunit pas, à une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, même un peu plus, un journal qui s'appelle Charlie Hebdo publiait régulièrement des articles très critiques, des dessins très critiques à l'endroit de Bernard-Henri Lévy. Et même Philippe Val, donc, qui était le directeur de ce journal, avait consacré un éditorial enflammé qui s'appelait Bernard-Henri Lévy, l'aimé Jacquet. Donc un sélectionneur de l'équipe de France de football, l'aimé Jacquet de la pensée. Et il disait, on peut lire les textes de Pierre Bourdieu, de Serge Halimi, et les lire en rigolant, parce que ce sont des pamphlets contre Bernard-Henri Lévy, et il était très très critique à l'égard de Bernard-Henri Lévy. Et dans ce journal, régulièrement, le journaliste Luz consacrait plein de petits dessins contre Bernard-Henri Lévy. C'était une cible récurrente du journal. Et puis, à un moment donné, alors je vais expliquer à quel moment, c'est autour du référendum sur le traité constitutionnel européen, Philippe Ball a basculé. Alors il a basculé à ce moment-là, il a basculé aussi au moment de l'affaire de la publication des caricatures de Mahomet. Il a vu en Bernard-Henri Lévy finalement d'une certaine façon un soutien qu'il pouvait essayer d'obtenir dans certaines causes qu'il défendait, notamment le oui au TCE. Et Bernard-Henri Lévy, qui est quelqu'un de très, très malin, sait comment séduire quelqu'un, c'est-à-dire en le flattant. C'est-à-dire que Bernard-Henri Lévy a commencé à faire des articles où il disait du bien de Philippe Val dans son... dans sa tribune, dans son éditorial du Point. Et ainsi, Philippe Val, en retour, disait tiens, un très bon article, un très bon livre de BHL, et il le disait dans Charlie Hebdo. Et ainsi de suite, ce système de renvoi d'ascenseur, Bernard-Henri Lévy l'a utilisé avec de nombreux adversaires, on va dire, politique, en apparence au départ, du moins, comme pouvait l'être Philippe Val, et ainsi va séduire un certain nombre d'intellectuels qui ne vont pas forcément être d'accord avec BHL surtout, mais qui ne vont pas s'opposer à BHL. Et c'est ainsi que BHL va retrouver des articles favorables dans toute la presse, parce qu'il fait rendre compte de manière flatteuse bien de certaines choses. Vous citiez par exemple l'article de Libération qu'a publié Sophie Desdéserts en février. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'elle fait un article plutôt favorable, qui le rend du moins très, très aimable. Et en retour, Bernard-Henri Lévy, sur X, sur Twitter, sur X, lui dit « J'aime mieux quand on parle de mes livres, mais ce texte de Sophie Desdéserts dans Libé a un mérite, et même deux, il est exact et loyal, et il dit vrai sur les engagements qui guident aussi ma vie, donc tout va bien. » C'est-à-dire que voilà, il lui fait un petit clin d'œil sympa, et on peut penser que le jour où elle sortira un livre, eh bien, Bernard-Henri Lévy saura dire que ce livre, il est bien. Et comme ça, Bernard-Henri Lévy, par la caresse d'une certaine façon, arrive à amadouer un certain nombre de journalistes. Si par ailleurs, des journalistes, des médias commencent à le critiquer, alors là, il va au cran au-dessus, c'est-à-dire qu'il va voir le directeur ou le propriétaire. Quand il y a eu des articles, quand il a entendu parler d'articles qui allaient être défavorables à l'un de ses livres, à l'un de ses films, dans des journaux qui appartenaient à l'époque à Lagardère, alors il contactait Lagardère, qui était son ami. Et quand, il y a bien longtemps encore, le chanteur Renaud préparait une chanson qui s'appelait L'Entarté, eh bien, Bernard-Henri Lévy a voulu obtenir le texte de la chanson, les paroles de la chanson, avant même sa publication, pour voir s'il y avait moyen d'empêcher la sortie de cet album-là. On voit Bernard-Henri Lévy a tout un réseau, a des amis qui sont assez haut placés, et assez haut placés dans les médias, bien évidemment, et donc va utiliser cette complicité qu'il entretient à leur égard pour essayer d'un côté de freiner la critique et en contrepartie de mettre en avant les œuvres qu'il produit. Il faut dire par exemple que ces films sont à la fois des échecs critiques. Alors là, c'est la critique cinéma. Hein. Dans les journaux de cinéma, on va critiquer, on va dire c'est pas des bons films, mais sont aussi des échecs commerciaux retentissants. Et là encore, la place qu'il occupe à Arte, par exemple, où il a été directeur du conseil de surveillance de Arte, le rend favorable le financement de ces films et la diffusion de ces films, que ce soit Arte, mais aussi à France Télévisions. Donc on a ainsi, nous, avec nos sous, financé la plupart de ces films. Donc ça pose aussi quelques problèmes. Donc ça, c'est sur Bernard-Henri Lévy, mais voilà. On pourrait en parler très très longtemps, on pourrait même consacrer une émission entière. Sur les journalistes, comme le journaliste de Blast, mais globalement, hein, sur les journalistes, tous les journalistes qui sont morts en Palestine, on peut aussi le percevoir, parce que nous, on explique le double standard ou le deux poids deux mesures, le fait que il y a des conflits qui suscitent plus d'intérêt pour les journalistes mainstream que d'autres. Et ainsi, les journalistes de terrain qui vont mourir sur tel ou tel conflit n'auront pas ne bénéficieront pas de la même empathie de la part des médias mainstream. On pourrait se rappeler, par exemple, de journalistes qui ont été pris en otage, notamment Georges Malbruno, Christian Chesneau ou d'autres, qui étaient donc des journalistes pris en otage et qui faisaient très bien leur travail. Qui avaient bénéficié d'un soutien massif de la part de la plupart des médias mainstream français. En contrepartie, quand ce sont des journalistes qui n'appartiennent pas à RTL, Figaro ou Libération pour d'autres, eh bien le soutien n'est pas le même parce qu'il n'y a pas cette connivence journalistique que l'on retrouve dans les médias classiques. Donc ça, c'est quelque chose d'assez significatif également. Le fait que donc qu'il y ait des conflits qui préoccupent plus les journalistes que d'autres et des journalistes qui appartiennent à des médias qui préoccupent plus les journalistes que d'autres également.
Effectivement, Mathias Raymond, ce qui est intéressant à noter avec Bernard-Henri Lévy, c'est que, bon, effectivement, vous parlez de renvoi d'ascenseur, là, dans votre article, par rapport à, comment dire, à l'article de Sophie Desdéserts. Effectivement, vous parlez d'une parade médiatique, parce qu'effectivement, il a eu droit à beaucoup de temps et de place dans tout un tas de médias. Je pense qu'il y a une dernière chose à dire par rapport et à Bernard-Henri Lévy et à Sophie Desdéserts. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, Mathias Raymond, dans la deuxième partie de cette émission, on va évoquer donc l'enquête de Sophie Desdéserts sur la mosquée de Paris, parce qu'en fait en toile de fond de tout cela, ce sont les relations franco-algériennes qui sont en jeu par rapport aux différends qui peuvent opposer actuellement la France et l'Algérie. Donc Sophie Desdéserts, j'en parle dès maintenant, Sophie Desdéserts parle du recteur de la mosquée de Paris comme un ambassadeur bis ou un ambassadeur officieux. Et s'agissant de Bernard-Henri Lévy, bon, par exemple, sur le dossier algérien, là, on trouve un article qui date de décembre 2003 sur Le Monde Diplomatique, sur le site du Monde Diplomatique, écrit par Nicolas Beau, et effectivement, qui revient sur comment est-ce que Bernard-Henri Lévy, pendant la décennie noire algérienne, affichait une proximité quand même très marquée avec le gouvernement algérien, qui s'était maintenu au pouvoir en 1992 en annulant purement et simplement le deuxième tour des élections législatives que le Front islamique du Salut avait remporté au premier tour, en tout cas le Front islamique du Salut qui était largement devant, qui était proche de la majorité absolue dès le premier tour, qui avait obtenu la majorité relative et qui était même proche d'obtenir les deux tiers des sièges à l'Assemblée nationale algérienne, deux tiers des sièges qui aurait pu lui offrir la possibilité de changer la constitution algérienne. Et donc, on a vu dans ces années-là un certain nombre de personnes comme Bernard-Henri Lévy ou même André Glucksmann, qui est, si je ne dis pas de bêtises, le père de Raphaël Glucksmann, qui se sont rapprochés du gouvernement algérien de ces années-là parce que ils voyaient en ce gouvernement qui a refusé le résultat des urnes en foulant au pied la constitution algérienne, tout simplement, qui voyaient en ce gouvernement un rempart contre l'islamisme et contre contre l'islamisme tout simplement, même pas forcément contre le terrorisme ou le salafisme ou autre. Mais bon, toujours est-il, Mathias Raymond, que effectivement Sophie Desdéserts, c'est quelqu'un, pour la présenter rapidement, qui a pas forcément, en fait, bon, comme beaucoup d'autres journalistes, c'est quelqu'un qui balaye tout un tas de sujets différents au travers de ses articles. Cette fois-ci, elle a assuré, on peut dire
ça comme ça sans risquer de trop se tromper, la promotion de Bernard-Henri Lévy. Mais s'agissant des relations franco-algériennes, elle a aussi consacré ces derniers mois des articles. Alors, un article à Boualem Sansal, un autre article à Xavier Driancourt, qui est l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Je rappelle quand même que Xavier Driancourt et Boualem Sansal font partie du comité stratégique, comme ça s'appelle, du média d'extrême droite Frontières, dont on a parlé ici au mois de février et au mois de juin avec Thierry Vincent de Blast. Et d'ailleurs, pour terminer quand même la présentation rapide de Sophie Desdéserts, de toute façon qu'on va poursuivre en deuxième partie, Sophie Desdéserts, c'est quelqu'un... Bon, outre le fait qu'elle ait travaillé sous les ordres de Bruno Jeudy à Paris Match, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'écrire des livres assez révérencieux. Oui, clairement. Elle a écrit récemment, enfin, je sais plus exactement quand c'était, mais un livre sur les coulisses du pouvoir, apparemment en s'éternisant sur Brigitte Macron. Et elle avait par le passé écrit une biographie de Jean d'Ormesson du Figaro. Enfin, Jean d'Ormesson qui avait dirigé le Figaro dans les années 70. D'ailleurs, peut-être qu'on peut terminer sur ça, Mathias Raymond. Mais là, c'est pareil. Alors, je pense que vous allez me dire, beaucoup de journalistes font ça. Mais cette espèce de journalisme de palais, de cour, de très révérencieux en fin de compte, de quoi est-ce qu'il est le nom, tout en sachant en plus que Sophie Desdéserts a quand même changé plusieurs fois de média au cours de sa carrière. Et d'ailleurs, ce que je peux dire, c'est qu'elle, comme Bruno Jeudy, sont partis de Paris Match il y a de cela 2-3 ans pour, ça il l'avait expliqué dans une émission sur France 24, pour échapper à la censure. C'est ce qu'ils avaient dit. Pourquoi? Parce que le groupe Bolloré avait pris en main ce média-là, il l'a vendu depuis, mais avait pris en main Paris Match, et apparemment, effectivement, la censure battait son plein, parce que dans tous les médias du groupe Bolloré, la censure bat son plein. Alors, ça peut, c'est le cas aussi dans d'autres médias, mais c'est vrai que chez Bolloré, ça a tendance à être plus sévère qu'ailleurs. Bon, mais comment, voilà, et après, on pourra clôturer l'entretien, Mathias Raymond, mais comment expliquer encore et toujours ce journalisme de palais, de cour, ou ce journalisme de révérence à l'égard de personnages comme BHL, ou de personnages comme Xavier Driancourt, qui passe son temps sur les médias, notamment du groupe Bolloré. Et d'ailleurs, je tiens à dire que Sophie Desdéserts elle-même explique qu'aujourd'hui, il conseille Marine Le Pen. C'est elle qui le dit dans son article. Tout en sachant d'ailleurs, alors là, je ne sais pas si vous connaissez bien cette affaire, tout en sachant qu'elle a aussi écrit un article pour venir au secours, en fait, de Boualem Sansal, qui est malheureusement pour lui emprisonné en Algérie. Tout en sachant qu'elle l'explique très bien, Boualem Sansal et Xavier Driancourt sont deux amis, deux collègues, notamment pour ce qui est de diriger le média Frontières. Et là, je trouve, Mathias Raymond, qu'on a une espèce de contradiction entre le fait de dénoncer les affinités de Xavier Driancourt avec Marine Le Pen, tout en soulignant le fait que c'est un ami de Boualem Sansal, et tout en sachant qu'elle encense clairement Boualem Sansal dans son espèce de portrait. Donc voilà, d'après vous, en quoi est-ce que ça peut avoir un rapport avec un journalisme, oui, comme je le disais tout à l'heure, de palais, de cour, de révérence, dont elle peut malheureusement être l'autrice?
Oui, alors bon, moi je ne connais pas particulièrement tous les détails de ce que vous évoquez là sur qui est cette Sophie Desdéserts. Voilà, on lit Libération, mais on ne lit pas non plus de manière... fine tous ces articles, mais le parcours en fait de cette journaliste et d'autres comme Bruno Jeudy, comme vous le dites, souligne vraiment un parcours assez en réalité assez commun dans le journalisme, on va dire le journalisme politique en partie, qui est souligné par ce qu'on pourrait appeler un mercato des journalistes à chaque été, hein. Il y a le mercato du foot et puis il y a le mercato des journalistes qui passent d'un média à l'autre et qui finalement sont peu regardants sur la ligne éditoriale du média qu'ils quittent ou qu'ils rejoignent, puisque en apparence, pour eux, mais même pour pour nous, d'une certaine façon, ces médias sont globalement d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire la mondialisation économique, l'atlantisme, la critique de la gauche de gauche, pour faire simple, c'est quelque chose d'assez fréquent dans les médias, que ces journalistes fréquentent. Et donc on a facilement un journaliste qui est sur le service public, qui va aller sur une chaîne privée, un journaliste d'une chaîne privée qui va basculer sur une chaîne publique, un journaliste de Paris Match qui va se retrouver à Libération. Parce que sur l'essentiel, je dis bien sur l'essentiel, ces médias se retrouvent et sont plutôt en accord dans l'opposition à une transformation radicale de la société, par exemple. Et voilà, et ce journalisme de cour, il n'est pas nouveau, il est même très ancien, il remonte bien avant l'apparition d'Internet, bien évidemment. On pourrait se rappeler, par exemple, que la présentatrice du JT de TF1, Claire Chazal, avait écrit un livre d'entretien avec Édouard Balladur au moment où Édouard Balladur était Premier ministre et allait être candidat à l'élection présidentielle, une candidature qu'allait soutenir Bouygues et donc TF1 et donc Claire Chazal. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fréquent, d'assez courant dans les médias français, dans le journalisme politique français. Ce journalisme de cour, ce journalisme de renvoi d'ascenseur, qui s'est exprimé pas plus tard qu'il y a quelques jours avec l'affaire où l'on voit Thomas Legrand, journaliste à Libération encore, et à France Inter, et Patrick Cohen, journaliste à France Inter et à France 5, discuter dans un restaurant avec deux candidats, enfin pas deux notables du Parti Socialiste. Ce qu'il y a de très marquant dans cette discussion, c'est que si quelqu'un découvre cet entretien entre ces quatre personnes sans les connaître, il pourra penser que Thomas Legrand, en fait, est un élu politique et que les autres sont des journalistes. Parce que c'est lui qui donne des stratégies, comment faire gagner le PS, comment attaquer tel candidat à droite, etc. Et voilà, cet univers de connivence, cet univers finalement du petit déjeuner, du repas, du dîner avec les élus ou avec les gens du pouvoir, c'est quand même très, très significatif, très, très propre aux médias français mainstream.
Tout à fait, Mathias Raymond. Et pour terminer cet entretien avec vous, je tiens à préciser que Sophie Desdésert, alors au téléphone, nous a dit, elle nous a dit que parce que elle craignait apparemment de la diffamation de notre part, parce que effectivement, nous on a cherché à la joindre et elle nous a d'ailleurs gentiment, comme je le disais, accordé 20 minutes d'entretien. On a cherché à la joindre, tout simplement pour avoir un peu son point de vue, et donc elle nous a dit que l'avocat de Libération écouterait toute notre émission. Je ne sais pas s'il va le faire vraiment, mais dans tous les cas, voilà, elle craignait de la diffamation de notre part, alors que bon, nous c'est pas notre objectif. Mais effectivement, voilà, ces articles, peuvent afficher outre une certaine révérence, mais lié à des objectifs peut-être de renvoi d'ascenseur. Effectivement, voilà, nous ce qu'on observe ici dans cette émission, c'est notamment une contradiction entre un article élogieux sur Boualem Sansal publié le 15 mai dernier et un article un peu plus offensif sur Xavier Driancourt qui s'appelle « L'ambassadeur sans ligne rouge avec le RN » et qui lui a été publié le 4 mars 2024 pour le coup, tout en sachant que voilà, Sophie Desdésert ne cache pas la proximité de Boualem Sansal avec Xavier Driancourt, voilà. Bon, du coup, Mathias Raymond, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Donc, effectivement, dans un instant, on va retrouver l'historien Sadek Selam pour un entretien que nous avons enregistré le 15 août dernier, à propos donc de l'enquête de Sophie Desdésert sur le recteur de la mosquée de Paris dans le journal Libération, dans le numéro des 9 et 10 août dernier. Voilà.
Merci bien.
Retour en direct sur Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France. Vous venez donc d'écouter un entretien réalisé avec Mathias Raymond du monde diplomatique et de l'association Acrimed, qui nous a donc parlé de la propagande de guerre à la lumière de la vidéo réalisée pour Blast par Acrimed. C'était le 22 juillet dernier. Une petite précision avant de poursuivre. Alors, si vous voulez nous écouter sur Internet, alors rendez-vous aujourd'hui sur, enfin rendez-vous. Vous ne pourrez accéder qu'au direct sur le site anarchiste.info/radio/libertaire/streaming. Voilà, parce que le direct via le site radio-libertaire.org ne marche pas aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez toujours nous écouter sur la bande FM, hein, 89.4 FM en Ile-de-France, et également donc sur anarchiste.info/radio/libertaire/streaming. Alors maintenant, nous allons diffuser un entretien donc réalisé le 15 août dernier, hein, avec l'historien Sadek Selam, que nous avons, comme vous le savez peut-être, déjà reçu. Nous l'avons déjà reçu en mars, en mai et en août dernier. Et donc cette fois-ci, on va aborder un papier écrit sur le recteur de la mosquée de Paris par la journaliste du quotidien Libération, hein, Sophie Desdéserts, dont nous avons parlé du coup il y a quelques instants avec Mathias Raymond, hein, puisque effectivement Madame Sophie Desdéserts réalise des articles sur des sujets variés. Effectivement, Acrimed a pu la critiquer par rapport à son, on va dire, son papier très élogieux, ou en tout cas assez flatteur à l'égard de Bernard-Henri Lévy, ce qui n'est pas sans poser problème, vous vous en doutez bien. Donc, concernant le dossier sur le recteur de la mosquée de Paris et sur les relations franco-algériennes de façon plus générale, la mosquée de Paris étant dirigée par l'État algérien, donc le dossier en question a été publié dans le numéro de Libération des 9 et 10 août dernier. Et alors, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, effectivement, nous avons échangé nous-mêmes avec Madame Sophie Desdéserts, c'était le 3 septembre dernier au téléphone, et donc, on pense que son papier présente quand même quelques lacunes. On les décrit avec Sadek Selam. Sophie Desdéserts, elle nous a indiqué en fait qu'elle avait rédigé son article par rapport à l'emprisonnement en Algérie de l'écrivain Boualem Sansal. Là aussi, on en a parlé il y a quelques instants là dans l'entretien qu'on a diffusé avec Mathias Raymond. On avait aussi parlé de Boualem Sansal dans nos émissions des 14 février et 8 août dernier, parce qu'en fait, Boualem Sansal participait, parce que bon, effectivement, aujourd'hui, il n'est pas libre de ses mouvements. Boualem Sansal, quand il était encore en liberté, enfin, quand il était encore en France et qu'il n'était pas en prison, du coup, eh bien, il participait à la direction du média Frontières. Et Sophie Desdéserts elle-même qualifie ce média, tout à fait justement par ailleurs, de média extrême droite. Et dans le papier que Sophie Desdéserts consacre à Boualem Sansal le 15 mai dernier, elle mentionne son amitié, l'amitié de Boualem Sansal, avec l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. Et lui, donc, effectivement, lui aussi, il participe à la direction du Média Frontières, tout comme Boualem Sansal. Et Sophie Desdéserts elle-même rappelle bien, explique bien que ce Xavier Driancourt conseille désormais Marine Le Pen. Elle écrit elle-même qu'il n'a pas de ligne rouge avec le Rassemblement National. Elle mentionne dans le même temps l'amitié qui existe entre Xavier Driancourt et Boualem Sansal. Donc voilà, elle nous a bien expliqué que le papier qu'elle a rédigé sur le recteur de la mosquée de Paris et la mosquée de Paris de façon plus générale avait un lien avec l'emprisonnement de Boualem Sansal. Bon, après, c'est pas forcément évident à la lecture du texte, mais il s'avère que elle a apparemment débusqué, ce qui n'est pas faux, hein, elle a apparemment débusqué un rôle diplomatique important que la mosquée de Paris peut jouer. Cependant, bon, voilà, le fait de mettre en relation la mosquée de Paris et Boualem Sansal, c'est pas forcément très... ça soulève quelques interrogations, et de toute façon, le papier en lui-même soulève de nombreuses interrogations. Et on a choisi d'en parler parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres enjeux parallèles qui interviennent. Les relations franco-algériennes de façon plus générale, le traitement de l'islam et des personnes de confession musulmane par les médias français, et même leur traitement tout court, hein, sur le territoire français. Donc voilà, nous passons tout de suite donc sur Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France, l'entretien réalisé le 15 août dernier avec l'historien Sadek Selam. Et nous vous retrouvons tout de suite après cet entretien pour tout simplement passer le relais à l'émission Les Oreilles Libres qui commence à 14h30. Là, il est midi. Passé de 43 minutes sur Radio Libertaire, tout de suite donc c'est l'entretien avec Sadek Selam par rapport au dossier de libération dans son numéro des 9 et 10 août dernier sur le recteur de la mosquée de Paris. Excellente écoute de cet entretien dans l'émission Médias et Antifascisme sur Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France. Et je vous rappelle donc que si vous voulez nous écouter en ligne, écoutez-nous sur anarchiste.info/radio/libertaire/streaming. Voilà, le direct sur le site radio-libertaire.org ne fonctionne pas. Donc vous pouvez nous écouter sur anarchiste.info/radio/libertaire/streaming. Et bien sûr, sur le 89.4 FM en Ile-de-France. Excellente écoute de l'entretien avec Sadek Selam. C'est tout de suite dans l'émission Médias et Antifascisme sur Radio Libertaire.